Radio Okapi.
À la présentation du journal, Agathe Lampona et Dema.
Okapi.
Des malfrats ont attaqué hier soir un minibus de transport en commun à Uvira. L'attaque a causé au moins un mort et plusieurs blessés. Les rebelles burundais du FNL sont pointés du doigt. Le calendrier scolaire légèrement réaménagé à Kinshasa, Bukavu, Goma et Mbandaka. La durée des vacances a été réduite de 3 jours à cause de la paralysie observée suite aux récents événements dans ces villes. Makaire Mwangu, ministre en charge du secteur, l'a annoncé aujourd'hui à Radio Okapi. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville s'affrontent demain dans le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous entendrez dans ce journal l'entraîneur des Léopards, Florent Ibengue, qui promet un match à jouer dans un style différent. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à ces 10 minutes d'information sur la radio de la paix. Ce journal part d'Uvira au sud de Kivu où une attaque armée la nuit dernière contre un minibus de transport en commun a fait un mort et 2 blessés. Les faits se sont passés sur la nationale numéro 5 entre Uvira et Bukavu. C'est précisément à Nyamunindi au nord de la cité d'Uvira. Les passagers à bord soupçonnent des éléments burundais du FNL et se disent inquiets tout de même que l'incident se soit produit non loin d'une position des FRDC. Fiston Goma nous en dit plus.
Il était 18h local lorsque le minibus est arrivé à la courbure Nyamunindi près de Kiliba en provenance de Bukavu. Selon des témoins, le malfrat lourdement armé et certains vêtus en uniforme militaire ont fait signe au chauffeur de s'arrêter. Mais celui-ci a voulu accélérer lorsque les bandits ont tiré en sa direction avant de l'atteindre à la poitrine. À l'arrêt du véhicule, ces bandits se sont ensuite rapprochés en tirant dans tous les sens avant de dépouiller le passager de tout. D'autres passagers à bord ont été blessés dans la débandade, indiquent les témoins. D'autres sources encore parlent de 3 morts dont les chauffeurs et 2 femmes. Selon des sources militaires du 334e sous-secteur opérationnel et du 3304e régiment, les malfrats identifiés aux rebelles burundais du FNL ont été pourchassés par les FRDC en direction de Rukoko. Le commandant FRDC confirme le mouvement intempestif de ces rebelles sur le couloir de Nyamunindi depuis le début des opérations militaires contre l'air bastion dans le Moyen et Haut Plateau. Toutefois, rassure le lieutenant-colonel Innocent Barugira, des positions militaires ont été renforcées au lieu de l'embuscade. D'Uvira, Fiston, Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Du Nord qui vous vers la province orientale cette fois-ci pour parler des activités qui reprennent progressivement dans la localité d'Aveba au sud de Bounia dans la chefferie de Walindou-Bindi. Une délégation de la MONUSCO s'est rendue sur place pour évaluer la situation sécuritaire. Son constat, les écoles ont rouvert leurs portes et les habitants retournent dans leurs maisons. Un retour qui intervient après de violents combats qui y ont opposé les forces loyalistes aux miliciens de la FRPI il y a environ 3 semaines. De retour de Aveba, Jean-Claude Lokidile, reportage.
Les habitants d'Aveba nettoyaient hier la cour de leur maison envahie par des zèbres. Au centre commercial, les activités ont repris. Les boutiques revendent à nouveau et même les vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, servent leurs clients. Des élèves habillés en uniforme bleu et blanc sont perceptibles dans la rue. La MONUSCO salue ce retour à la normale. Mohan Ladjouzi, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri.
Il y a lieu maintenant de regarder la situation de la population et continuer à aider les FARDC à poursuivre les miliciens là où ils sont jusqu'à ce qu'ils se décident à désarmer.
Certains habitants déplorent le pillage de leurs effets domestiques par les belligérants pendant que eux s'étaient réfugiés dans d'autres villages. Madame Françoise, la 50aine révolue, plaide pour une assistance humanitaire.
Ils ont emporté tous nos biens de la maison, tels que des ustensiles de cuisine, de chaises, de lits, des couvertures qu'on a laissées, et nous demandons aux autorités de nous venir en aide.
Pour l'heure, des campagnes de sensibilisation sont menées par la société civile en vue de convaincre d'autres déplacés qui hésitent encore à gagner leur domicile. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Restons dans la province orientale pour parler du lancement hier jeudi à Ango, au nord de Kisangani, des activités de la commission Bororo. C'est une structure chargée de l'identification et du cantonnement de ces éleveurs étrangers en prévision de leur rapatriement dans leur pays d'origine. Les débuts des activités de cette commission ont été marqués par l'installation du comité local ainsi que la planification des activités à réaliser à court terme. Anselme Massoua.
Plus de 100 personnes, chefs coutumiers, chefs de services étatiques et responsables de confessions religieuses et plusieurs associations de la cité d'Ango ont pris part à cette rencontre. Après échange entre les participants, une planification a été élaborée. Hubert-Pierre Molisseau, ministre provincial de l'Intérieur et président du comité local de la commission Mbororo, explique les principales activités à mener dans 3 mois.
Nous commençons par la sensibilisation qui sera suivie de la détermination des lieux, des sites où on va cantonner les Mbororo. Les sites seront choisis par les organes locaux. Après les avoir identifiés, recensés ainsi que leur cheptel, on va prendre des mécanismes, des dispositions qui s'imposent pour les rapatrier dans leurs états d'origine.
Satisfaite du début de ces opérations, le président de la société civile d'Ango appelle l'État congolais à faire diligence pour que ces éleveurs soient vite rapatriés. Jean-Claude Mbo.
Maintenant, nous espérons que la population sera impliquée dans ces processus, que le temps ne puisse pas être trop long, parce qu'on dit quand on est à l'excès de souffrance, on peut crier et on peut aller à la révolte.
Notez que cette commission Mbororo est présidée par le gouverneur des provinces comme coordonnateur, assisté de la MONUSCO à titre de coordonnateur adjoint. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Kapi.
Justice dans ce journal. Une cinquantaine de bénéficiaires de la loi d'amnistie écrivent à la procureure de la CPI pour qu'elle ouvre une enquête sur la violation du droit international humanitaire dont ils se considèrent victimes. Près d'un an depuis la promulgation de la loi d'amnistie par le chef de l'État pour faits de guerre, faits insurrectionnels et infractions politiques en RDC, ces amnistiés qualifient leur détention à la prison centrale de Makala de séquestration et de torture morale. Ils affirment avoir épuisé toutes les procédures pour obtenir leur libération de la présidence de la République au Parlement en passant par le gouvernement. Et jusque-là, aucune suite à leur démarche. On écoute l'un des bénéficiaires de cette amnistie, Maître Firmin Yangambi, joint par Jeff Ngoy.
Moi-même et d'autres compatriotes sommes en détention à la prison centrale de Makala depuis certains 6 ans, d'autres 8 ans, d'autres encore 4 ans. Et à la faveur de la loi d'amnistie promulguée par le chef de l'État le 14 février de l'année passée, nous étions donc censés être libérés. Par ces motifs-ci, que les personnes dont les procès étaient entrés en cours étaient considérées comme libérées tout simplement parce que les poursuites avait pris fin. Nous sommes retrouvés dans l'obligation de saisir le bureau du procureur de la CPI afin que ces derniers puissent diligenter une enquête, vérifier si notre détention ne viole pas à quelques égards le droit international pénal et le droit international humanitaire afin que justice soit faite.
Et notez que selon certains avocats des autres bénéficiaires de cette loi, la requête adressée à la procureure de la Cour pénale internationale ne serait pas de sa compétence. La CPI, argumente-t-il, se saisit des crimes graves du droit international humanitaire. Ils annoncent ainsi vouloir, quant à eux, réactiver les démarches auprès du gouvernement afin de faire libérer leurs clients. Les vacances de Pâques pour les élèves des écoles primaires, secondaires et professionnelles de Kinshasa, Goma, Bukavu et Mbandaka pour cette année scolaire 2014-2015 vont débuter avec 3 jours de retard, soit le 3 avril 2015 au lieu du 31 mars comme prévu initialement. Ceci ressort du calendrier scolaire réaménagé et rendu public par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté, Makere Mwangu-Famba. Ceci fait suite à l'arrêt des cours enregistrés au cours de lors des manifestations politiques qui ont paralysé ces villes pendant près d'une semaine. Makere Mwangu-Famba l'a annoncé au cours du magazine Parole aux auditeurs du vendredi 30 janvier sur les antennes de la radio Okapi. On l'écoute au micro de Pierrot et la Mégine.
Nous avons eu presque 3 situations. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons connu donc des perturbations à partir du lundi 19 au samedi 24. Pour la ville de Mbandaka, on a eu des problèmes à partir du lundi au 23 janvier, le vendredi. Et puis donc pour Bukavu et Goma, ça c'était à partir du mercredi 21 au samedi 24. Donc on a réaménagé effectivement les calendriers scolaires pour ces 4 villes. Pour nos amis ou nos petits-enfants de la maternelle et de l'école primaire, nous avons juste touché la durée des vacances. Parce qu'avant, donc, on avait prévu dans le calendrier scolaire que nous avions promulgué les vacances avait 11 jours, donc il partait du 31 mars au samedi 11 avril inclus. Cette fois-ci, donc, les vacances vont commencer le 3 avril, le vendredi 3 avril au samedi 11 avril. C'est la même chose pour les secondaires. Les vacances commencent le 3 avril au lieu du 31 mars.
Une note sportive pour clore ce journal. La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville s'affronteront demain samedi dans le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le grand derby des deux Congos se jouera aussi sur le banc avec la présence des sélectionneurs Florent Ibenge pour la RDC et Claude Leroy pour la République du Congo. Pour le sélectionneur du Congo-Kinshasa, ce match sera également tactique. Florent Ibenge au micro de Nanambala, envoyé spécial de Radio Okapi en Guinée équatoriale.
Ce qu'il faut dire, c'est que le Congo-Brazzaville a une très belle équipe, déjà. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Ensuite, l'entraîneur connaît bien nos joueurs. Ça, c'est un atout peut-être pour lui. Mais d'un autre côté, les joueurs aussi n'ont pas envie de lui faire des cadeaux. Donc ça aussi, c'est un atout pour la RDC. Donc on va essayer de diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces par rapport à cette équipe-là. QGA à nouveau, qui est forte, qui s'appuie sur un bon bloc défensif. Et puis une attaque, notamment avec deux joueurs qui sont très complémentaires. Là, on va jouer un quatrième match avec un style différent. On a joué un premier match où on a utilisé un bloc mi-terrain. Le deuxième match, il fallait jouer plus bas. Et après, contre la Tunisie, on a joué en 4-4-2 avec un bloc plus haut. Donc c'était trois matchs à jouer différemment. Je pense qu'on a été intelligent. On a manqué juste un petit peu de maturité. Là maintenant, c'est à nouveau un adversaire qui joue en 4-4-2, un nouveau système. On doit essayer de sortir de ce système.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.